France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Louise Cognard, Joséphine Reinhardt et Antoinette Benoît, réalisé par Vivian Lecuivre. Et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. Après des mois de surenchères, la Chine et les États-Unis ont suspendu pour 3 mois les droits de douane mutuels qu'ils s'étaient imposés. Mais face aux tentatives de Donald Trump de l'empêcher, la Chine de ravir le titre de première puissance mondiale, Pékin renforce ses partenariats avec le reste du monde. Avec l'Asie, de manière générale, nous en parlerons demain. Avec l'Europe, il lancera question mercredi. Avec l'Amérique latine, que nous évoquerons jeudi. Aujourd'hui, les relations entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, au-delà des hommes, une amitié stratégique.
Mesdames et messieurs, nos discussions avec le président de la République populaire de Chine se sont déroulées dans une atmosphère traditionnellement chaleureuse, amicale et constructive, et elles ont été très riches et productives.
Aujourd'hui, face à la tendance internationale et à un comportement de harcèlement hégémonique, la Chine travaillera avec la Russie pour assumer les responsabilités.
Il ne fait aucun doute que le partenariat russo-chinois est l'un des principaux facteurs de stabilisation dans les affaires internationales contemporaines. Notre coopération est un rempart. Les États-Unis cherchent constamment à semer la discorde, que ce soit en Europe, dans le détroit de Taïwan, en mer de Chine méridionale ou, comme ils le disent maintenant, dans la région Indo-Pacifique.
C'est une amitié affichée, revendiquée, clamée haut et fort par la Russie comme par la Chine. Une amitié qualifiée de sans limite qui a poussé les chefs des deux États, Xi Jinping et Vladimir Poutine, à se rencontrer plus de 40 fois depuis que l'un et l'autre sont au pouvoir. Leur dernier rendez-vous le 9 mai dernier à Moscou pour les commémorations de la victoire dans la Grande Guerre patriotique a été l'occasion parfaite de formuler une nouvelle fois le récit sino-russe. 80 ans après avoir contribué à défaire le Troisième Reich pour l'une et le Japon pour l'autre, Pékin et Moscou seraient aujourd'hui les remparts contre le néo-nazisme, comprenait l'Ukraine, mais aussi contre l'hégémonie occidentale. Au-delà de leurs relations bilatérales, Chine et Russie se veulent à la tête d'un ordre mondial alternatif, un contrepoids géopolitique aux États-Unis, proposition qui séduit de nombreux partenaires dans le monde, comme en témoignent les candidatures en cascade pour intégrer les BRICS, l'instance qui réunit les pays dits du Sud global. Pour toutes ces raisons, la Russie est pour la Chine plus qu'un simple fournisseur d'énergie. C'est un partenaire indispensable qu'il convient de traiter avec tous les égards et dont il faut cultiver l'amitié. De quel œil la Chine voit-elle les États-Unis et Donald Trump traiter Vladimir Poutine aujourd'hui avec tous les égards? Et si elle est censée être sans limite, l'amitié sino-russe peut-elle dans les faits accepter quelques compromissions? Nous en parlons ce matin avec nos invités. Bonjour Alice Ekman.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la recherche de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Vous avez écrit « Dernier vol pour Pékin » l'année dernière. Vous avez également signé un tract Gallimard « Chine-Russie, le grand rapprochement ». C'est notre sujet aujourd'hui. Bonjour Sylvie Berman.
Bonjour.
Et bienvenue à vous, ancienne diplomate en poste entre autres à Pékin et Washington, autrice de l'ours et de... Pardon, j'ai dit une bêtise.
Moscou.
De Moscou, pardon, et de Washington. Excusez-moi, ben en plus, surtout qu'on va en parler d'emblée dès le début de cette émission. Vous êtes l'autrice de « L'ours et le dragon » paru ce mois-ci aux éditions Talendier et qui s'ouvre justement sur la fin de votre mandat comme ambassadrice de France en Russie en décembre 2019. Le directeur Asie du ministère russe des Affaires étrangères vous dit alors « On pourrait ériger une statue à la gloire de Donald Trump car grâce à lui, les relations russo-chinoises n'ont jamais été aussi bonnes depuis Catherine la Grande. » Autant dire depuis la fin du XVIIIe siècle, c'était vers la fin du premier mandat de Donald Trump. Factuellement, est-ce que ce diplomate disait vrai ?
Oui, il dit vrai. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, pour remonter un petit peu dans l'histoire. Et c'est vrai que ça a été, depuis le début, des relations assez tumultueuses. Ce qui est intéressant, et c'est à contre-courant par rapport à aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, au XVIIe siècle, quand les relations ont commencé, ce qui intéressait la Russie, c'était le commerce avec la Chine, parce que ça rapportait des taxes. C'est un peu la logique de Donald Trump. Et puis, ce qui intéressait la Chine, au contraire, c'était la géopolitique, empêcher la Russie de soutenir les nomades qui menaçaient la Chine. Alors, ce qui s'est passé pendant le mandat de Trump, Trump était fasciné par Vladimir Poutine comme un homme fort, un mâle alpha qui lui ressemble, mais en réalité, son administration et le Congrès a mis des freins à cette relation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il prend sa revanche et il renoue le fil de son premier mandat. Et à la fin du premier mandat Trump, il y avait 1000 sanctions déjà des États-Unis contre la Russie. Donc, au nom de l'adage bien connu, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, la Chine et la Russie n'ont cessé de se rapprocher, même si ça avait déjà commencé en 2014.
Donald Trump, seconde version, est bien plus conciliant avec Vladimir Poutine qu'il ne le fut lors de son premier mandat. Peut-être une revanche, en effet, Sylvie Berman, après un premier mandat empêché par le Congrès notamment. Que pensez-vous de cette théorie selon laquelle, si Donald Trump se montre aujourd'hui plutôt conciliant avec Vladimir Poutine, c'est pour perturber sa bonne entente avec la Chine, Alice Ekman, comme si c'était une stratégie de Donald Trump. Je vais mieux m'entendre avec Vladimir Poutine, comme ça je vais couper l'herbe sous le pied à cette amitié russo-chinoise.
Si c'est réellement son intention, c'est un peu naïf de mon point de vue, parce que comme Sylvie Berman vient de le dire, les deux pays n'ont cessé de se rapprocher, et c'est pas un rapprochement de circonstances. C'est-à-dire au lendemain d'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l'expression communément partagée qu'on entendait souvent parmi les analystes, mais aussi les diplomates en France, en Europe, c'est aux États-Unis aussi, c'est de dire que ce n'est qu'un mariage de raison. C'est-à-dire que c'est un rapprochement de circonstances. La Russie n'avait pas d'autres possibilité que de se tourner vers l'Est pour trouver des débouchés pour ses hydrocarbures face aux sanctions. Donc c'était une diversification vers l'Est, au Japon aussi, pas uniquement Chine, mais principalement Chine. Et l'analyse qu'on entendait souvent, c'est de dire, mais ça ne va pas durer parce que il n'y a pas finalement de convergence de fond. C'est vraiment un des intérêts pragmatiques de court terme. Ça ne tiendra pas sur le long terme. Et aujourd'hui, on est en 2025 et on voit bien que ça tient. Donc il faut vraiment, prendre acte de ce rapprochement qui est progressif, régulier et qui dépasse largement la coopération économique et énergétique. C'est une coopération stratégique et j'ose le dire aussi politique et idéologique. Et ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est qu'elle a résisté à ce qu'on pourrait bizarrement qualifier de thèse de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire, on aurait pu penser que suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il aurait été dans l'intérêt de la Chine d'engager une distanciation vis-à-vis de la Russie. Or, ce n'est pas le cas. Les pays ont continué à se rapprocher. Si on regarde la coopération économique, les chiffres ont vraiment explosé. La coopération, le volume des échanges commerciaux ont vraiment augmenté très fortement, en plus 26% entre 2022 et 2023. Et l'augmentation ralentit un peu 2% en 2024 par rapport à 2023, mais continue à augmenter. Il y a une diversification de la coopération aussi au niveau militaire, avec la poursuite d'exercices militaires conjoints qui s'était déjà accéléré, y compris en mer Méditerranée en 2013-2014. On a aussi donc cette convergence politique qui est très clairement observable lors de la rencontre de Xi Jinping en Russie récemment. On en reparlera, mais c'est très clairement dans les textes.
Oui, peut-être pour clore cette toute première considération sur cette amitié sino-russe qui va au-delà de la géopolitique et de la façon dont, enfin de la géopolitique états-unienne et de la façon dont le président des États-Unis considère l'une ou l'autre en fonction des époques. Sylvie Berman, c'est vrai qu'on parle souvent, on entend souvent parler de la stratégie du Nixon inversé, allusion au rétablissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine en 72. C'était dans le but d'éloigner la République populaire de Chine de l'ennemi principal d'alors des États-Unis, l'URSS. Et là, aujourd'hui, on serait dans une époque, un Nixon inversé, c'est ça que ferait Donald Trump. Ça vous paraît tout aussi dérisoire comme pour Alice Ekman?
Oui, alors Alice Ekman dit que si effectivement Donald Trump avait cette idée en tête, ce serait naïf parce que ce soit la Chine ou la Russie, je ne parle même pas des dirigeants, ils raisonnent sur le temps long. Et le temps long, ils ont un intérêt effectivement à se reprocher, ils ont cet ennemi commun. La Russie se sent assiégée, encerclée par l'OTAN à l'ouest, et la Chine par toutes les bases des États-Unis à l'est. Donc ils ont véritablement cet intérêt de long terme. Alors Donald Trump, en général, il n'a pas de filtre et dit tout ce qu'il pense. Et je ne l'ai jamais entendu dire, en fait, qu'il entendait détacher la Russie de la Chine. Donc je ne pense même pas qu'il imagine cela. Et ce qui est intéressant, c'est que Kissinger avait fait deux recommandations au président américain, effectivement, de s'appuyer sur le pays le plus faible contre le plus fort. Mais il a dit, le temps n'est pas venu pour ça, il faut en observer la possibilité. Mais il avait une autre recommandation, qui était que Washington établisse avec Pékin et Moscou bilatéralement de meilleures relations que ces deux capitales entre elles. On peut dire que c'est raté, parce que effectivement, ces deux pays n'ont cessé de se rapprocher, même si l'un et l'autre sont fascinés par les États-Unis. Dans toute l'histoire de la Chine, y compris de Mao, c'est ce que je raconte dans le livre, il y a en fait une volonté de rapprochement vis-à-vis des États-Unis. Kissinger a parlé même de quasi-alliance. Et du côté russe aussi, il y a cette fascination pour retrouver cette parité avec les États-Unis. Mais les États-Unis ne sont pas et ne seront jamais sur cette ligne-là.
D'ailleurs, vous expliquez dans votre livre qu'au départ, Mao Tse-Tung, il veut plutôt se rapprocher des États-Unis. Et c'est parce que cette alliance n'est pas possible qu'il va se tourner vers l'URSS à l'époque, avec des difficultés qu'on va avoir l'occasion de développer très certainement. Alors, au-delà des mots, et vous nous direz l'une et l'autre, quel mot vous paraît le plus adapté pour décrire cette relation de long terme entre Russie et Chine, au-delà de cette expression employée très récemment par la Chine et la Russie de l'amitié d'acier qui les unirait, c'est ce qu'ils ont dit lors de leur dernière rencontre, l'amitié d'acier, oui c'est ça, c'était le 9 mai dernier à Moscou lors des célébrations de la victoire dans la Grande Guerre patriotique, la Seconde Guerre mondiale. Que contiennent d'ailleurs ces accords signés à cette occasion? Alice Ekman, vous l'avez très rapidement dit, mais il y a eu en effet les grandes commémorations du 9 mai, mais avant et après, Xi Jinping était sur place et des accords ont été signé avec la Russie.
Oui, beaucoup d'accords. Mais j'ai sous les yeux, par exemple, le texte sur la stabilité stratégique mondiale, qui est très ambitieux et très détaillé. Et c'est ça qui est intéressant à prendre en compte. Je pense que depuis le 4 février 2022, c'était la visite de Vladimir Poutine à Pékin en marge des JO d'hiver. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était quelques semaines donc avant l'invasion de l'Ukraine. Mais déjà, à ce moment-là, il y avait une déclaration conjointe très détaillée, très réfléchie, très conceptualisée. Alors, c'est pas un jeu de valeur, mais je veux dire, c'est des documents assez longs, assez détaillés, qui montrent qu'on est bien au-delà d'une coopération pragmatique. Dans ce document 2022, on parlait de remise on redéfinissait la notion de démocratie, de droits de l'homme, on parlait d'une réforme de la gouvernance mondiale qui serait vraiment façonnée par les deux pays, qui ne serait plus dominée par l'Occident, une tonalité anti-occidentale très forte. Ce n'est pas nouveau, mais était vraiment là, détaillé, noir sur blanc, affiché communément. Dans ce document sur lequel c'est une question plus récente, hein, de 8 mai 2025. On a une convergence dans le domaine de la sécurité sur les questions nucléaires. Alors, on a souvent dit, probablement à juste titre, que la Chine avait peut-être des divergences de vues sur la question nucléaire justement avec la Russie, hein, notamment concernant la menace de l'arme nucléaire brandie par la Russie. Mais dans son texte, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on voit que les deux pays ont signé un texte qui pointe du doigt les États-Unis et leurs alliés comme une alliance nucléaire qui provoquerait d'autres pays nucléaires dotés de l'arme nucléaire. Et donc, c'est-à-dire que la Russie serait provoquée par les États-Unis et ses alliés plus largement. Et on a constamment cette notion de provocation qui revient. Et puis, précisément, les deux pays qui critiquent directement le dôme d'or américain qui a été annoncé récemment. Et puis, une alliance ou un accord plus ancien qui est l'accord AUKUS, l'accord sur les sous-marins entre la Grande-Bretagne les États-Unis et l'Australie. Et on voit réellement que c'est pas uniquement un positionnement, c'est-à-dire qu'on a une volonté d'un rapprochement militaire et stratégique. On n'a pas d'interopérabilité entre les deux armées, hein, entre l'armée russe et chinoise. On le voit lors des exercices militaires conjoints, mais ces exercices sont de plus en plus grande ampleur, notamment par exemple l'exercice de juillet 2024 où les deux marines se sont rendues jusqu'au large de l'Alaska. Donc on a réellement une consolidation stratégique ici.
Consolidation stratégique et des points de vue convergents sur ce dôme d'or que vous citez. On rappelle que Donald Trump a annoncé la semaine dernière la construction prochaine d'un dôme sur le modèle du dôme de fer israélien. Lui l'appelle le dôme d'or pour les États-Unis, donc le futur système de défense antimissile des États-Unis. Et là-dessus, la Russie, comme la Chine, pense qu'il s'agit là d'une nouvelle confirmation de l'intention des États-Unis de faire de l'espace une arène de confrontation armée.
Ce fameux Golden Dome vise à construire un système antimissile affranchi de toute contrainte. Ce plan implique une nouvelle expansion des capacités militaro-spatiales des États-Unis, y compris des systèmes d'interception orbitale. Ce projet a une vocation offensive, violant le principe de pacifisme qui régit le traité international sur l'espace. Cela risque d'exacerber la course aux armements et la militarisation de l'espace, ce qui mettrait en danger l'ordre mondial et la régulation des armes.
La porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Mao Ning, donc critique à l'instar de la Russie de ce projet trumpien de Golden Dome. Au-delà de ces annonces qui concernent plutôt la stratégie militaire de la Russie et de la Chine, même s'il n'y a pas d'interopérabilité des armées aujourd'hui, il y a eu le 9 mai dernier, ou avant et après ces commémorations, lors de la visite de Xi Jinping à Moscou, et également des accords qui ont trait aux sociétés davantage, que ce soit des liaisons aériennes, que ce soit dans le domaine universitaire et linguistique aussi, Sylvie Berman.
Oui, tout à fait. C'est ce qui m'a frappé. Bon, alors au-delà de cette convergence idéologique que vient de rappeler Alice Eggman, c'est vrai que c'est deux textes fondateurs, hein, d'une certaine manière, et qui s'adressent au reste du monde et en particulier au sud global. Il y a eu des accords économiques très importants et récemment des accords frontaliers aussi, puisqu'il y a quelques jours, il y a eu à Khabarovsk, donc dans l'Extrême-Orient, une rencontre entre les deux pays avec la signature de 34 accords.
Parce que la frontière n'était pas encore totalement définie.
Si, la frontière est définie depuis 2004.
Ah, d'accord.
Mais ce qui est intéressant, c'est que la dernière île a été rendue en 2008 et c'est Balchoï-Oussourisk en russe. Et c'est là-dessus qu'ils ont des accords et des accords de coopération. Donc je trouve ça effectivement très intéressant. Ils ont doublé leur commerce et puis, bon, à la faveur du départ des entreprises européennes, les Chinois se sont davantage installés en Russie. Et aujourd'hui, les exportations chinoises vers la Russie, c'est 15%. Et alors que c'est 14% vers les États-Unis, parce que les Chinois ont réduit leur exposition vis-à-vis des États-Unis. Mais quand vous évoquez la question des sociétés et de le domaine culturel, moi, c'est ce qui m'a frappé. Parce que en fait, il y a un rapprochement évident au plus haut niveau, mais les méfiances n'ont pas disparu entre les populations. Les Chinois n'apprenaient pas le russe, les Russes n'apprenaient pas le chinois non plus. Et là, les directeurs d'universités ont signé à Moscou, au moment de cette rencontre d'État, un certain nombre d'accords, et justement qui portait sur l'enseignement de la culture, et des langues des deux pays.
Alice Eckmann.
Oui, et en complément, les deux pays ont aussi signé un accord de coopération sur les médias. Médias russes et chinois, médias d'État, bien sûr, mais c'est intéressant de prendre en compte ces accords dans un contexte de convergence de la désinformation et de la propagande, c'est très évident. On se souvient, par exemple, que au début de la guerre en Ukraine, les médias chinois avaient repris un élément de propagande russe qui disait qu'il y avait des armes, des laboratoires d'armes biochimiques américains présents sur le territoire russe. Les médias chinois ont largement repris, par exemple, cette fausse information. Et de même, les médias chinois comme les médias russes aiment souligner les failles de l'Occident, y compris les failles de la France, comme d'autres pays européens, et plus globalement, le déclin de l'Occident. C'est pas uniquement, bien sûr, de la propagande, c'est une stratégie précise voulant à terme prendre acte, non seulement du déclin, mais de l'accompagner au maximum, de jouer sur les failles et cette volonté de faire front commun contre l'Occident, elle est vraiment évidente.
Faire front commun malgré, disiez-vous Sylvie Berman, des réticences des peuples, qu'ils soient chinois ou russes. On s'est longtemps regardé en chien de faïence, tout le poids de l'histoire est là. On y reviendra, à la fois l'annexion de plus d'un million et demi de kilomètres carrés de territoire chinois par la... de territoire, je vais y arriver... Dites-moi, chinois par la Russie à l'époque de Catherine II, notamment au XIXe siècle, mais également, pardon,
après Catherine II.
C'était après, juste après Catherine II. Non, elle était plutôt justement dans un amour de la culture chinoise, des chinoiseries comme on disait à l'époque, mais aussi pendant les années 50, alors qu'on a beaucoup parlé d'un rapprochement entre la Russie et la Chine à l'époque de l'Union soviétique. Vous dites Sylvie Berman que c'était une relation supposée amicale, puisqu'en 1956, le processus de déstalinisation engagé par le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique avait plutôt fâché Mao et Khrouchtchev, ce qui ne les a pas empêchés de se retrouver un an plus tard à Moscou.
Novembre 1957. L'optimisme est à son comble à Moscou, au moment où le 40e anniversaire de la révolution d'octobre y amène les dirigeants de tous les partis communistes existants. Pour la première fois dans un défilé militaire sur la place Rouge, des fusées à moyenne portée. Et tous ces dirigeants, Mao en tête, sont persuadés que l'Union soviétique a des fusées encore plus puissantes, capables d'atteindre les États-Unis. Preuve en est, les Spoutnik, ces satellites que les savants russes, les premiers, ont été capables de placer sur orbite à l'approche des cérémonies du 7 novembre. La conviction des communistes du monde entier est que le sens de l'histoire est en leur faveur. Le vent d'Est l'emporte sur le vent d'Ouest, proclame Mao, qui prêche alors devant Khrouchtchev le langage de la lutte à outrance contre l'Occident impérialiste.
Archives de 1957, archives INA pour les 40 ans de la révolution d'octobre. C'était la première lune de miel communiste, disons, entre Mao et Khrouchtchev contre l'Occident impérialiste, puisqu'avant que Khrouchtchev ne dirige l'URSS, Staline considérait Mao comme, comment dites-vous Sylvie Berman, un paysan mal dégrossi, un ersatz de marxiste-léniniste.
Oui, un communiste de margarine. Voilà. Effectivement, parce que Mao, c'était avant tout un nationaliste et lui, sa stratégie, c'est l'encerclement des villes par les campagnes. Or, Staline, c'était beaucoup plus le type de révolution, beaucoup plus classique. Donc, il y a eu, en fait, incompréhension, mésentente. Et la réalité, c'est que les soviétiques, et à l'époque du Comintern, ont beaucoup plus aidé le parti nationaliste de Chiang Kai-shek que les communistes. Et d'ailleurs, les armes de Chiang Kai-shek ont été utilisées contre les communistes. Et la raison pour laquelle il n'y a pas d'alliance aujourd'hui entre la Chine et la Russie, c'est parce que les Chinois ne veulent plus d'alliance. D'ailleurs, ils n'ont conclu avec aucun pays. Donc, c'est une amitié qualifiée de sans limite, qualifiée d'amitié d'acier. C'est un partenariat. Mais en tout cas, l'idée d'alliance est proscrite parce que cette fameuse alliance qui devait durer pour des siècles, il y a eu une chanson Pékin-Moscou qui était chantée au Kremlin, qui a été chantée en Russie, c'est terminé dans le sang en 68 sur l'Oussourie. Et la réconciliation est venue très tardivement, en fait, avec Gorbatchev.
Alors, comment vous la qualifiez-vous, cette relation-là? Vous, Sylvie Berman, vous parlez de partenariat de long terme. Oui. Vous, Alice Ekman, de relation coordonnée.
Oui, enfin, relation coordonnée, c'est pas vraiment mon qualificatif. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir que deux pays n'arrêtent pas de parler de coordination. Qu'il faut qu'ils se coordonnent au sein des BRICS, des Nations Unies, de l'Organisation de Coopération de Shanghai. C'est-à-dire qu'ils anticipent leur positionnement pour faire front commun, pas uniquement au niveau bilatéral, mais faire coalition. C'est-à-dire fédérer un nombre maximum de pays autour de leur position pour marginaliser l'alliance occidentale qu'ils considèrent hostile. Ça, c'est vraiment cette diplomatie du nombre qui est soutenue par la Chine, qui marche pas toujours, mais l'ambition doit être prise en compte parce qu'elle est très forte et elle n'est pas nouvelle. Alors c'est intéressant de rappeler cet élément historique de l'approche chinoise vis-à-vis d'alliance. En effet, l'unique traité de sécurité, traité d'alliance que la Chine a signé formellement, c'est avec la Corée du Nord. Et aujourd'hui, souvent, on dit mais il n'y a pas de... Comme ce ne sont pas des alliances, les pays ne caractérisent pas la relation bilatérale comme une alliance, ce n'est pas une relation stratégique ou ce n'est pas une relation importante. Non, la Chine s'oppose de toute manière, quel que soit le pays, au concept d'alliance, c'est clair. D'ailleurs, les deux pays, quelquefois, les éléments de langage sont revenus dans les documents conjoints, et deux pays, parfois, s'opposent ouvertement au concept d'alliance, mais de manière conceptuelle, c'est une posture générale. concrètement, et ça c'est ça qui est intéressant, il y a vraiment un rapprochement stratégique entre les deux pays. Il y a alors comme il n'y a pas de traité, il y a rien qui oblige l'un ou l'autre pays à se soutenir en cas d'attaque. Ça, c'est très important à prendre en compte. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la Chine soutient la Russie dans son effort de guerre par l'augmentation des échanges commerciaux, par l'envoi de composants technologiques duals. Et encore, même quand on regarde à la loupe, c'est pas un soutien direct comme par exemple la Corée du Nord ou l'Iran vis-à-vis de la Russie en termes d'envoi de dons ou d'envoi d'équipements militaires. Ça, c'est très clair.
Même si Volodymyr Zelensky dit l'inverse. Aujourd'hui, il dit qu'en Ukraine, la Chine envoie de l'artillerie, de la poudre à canon et qu'ils ont même arrêté deux combattants chinois.
Mercenaires, mais voilà, c'est quand même on cherche très précisément le nombre, ça reste anecdotique et c'est pour l'instant il n'y a pas de preuve qu'il y a un soutien, une volonté gouvernementale de soutenir directement. Mais je voulais revenir il n'y a pas de soutien direct, mais il y a finalement un respect des positions mutuelles qui est assez martelé, par exemple sur Taïwan, et c'est pas nouveau, même si on en parle plus récemment. La Russie soutient la position chinoise totalement et clairement la Chine sait que la Russie ne mettrait pas des bâtons dans les roues à la Chine en cas de en cas de réunification par la force ou par d'autres moyens. Ensuite, par exemple sur la mer de Chine du Sud, pareil, les deux pays ne sont pas opposés, et sur l'Ukraine, comme vous le savez, la Chine n'a jamais condamné l'invasion russe et elle ne le fera pas à mon avis. Donc ça c'est important, et surtout tout à l'heure on parlait de convergence politique, mais les deux pays, on le voit dans ce document, mais on le voit assez souvent aussi, on le voyait aussi dans le document de 2022, s'opposent à ce qu'ils appellent les changements de régime, les révolutions de couleur. Enfin, ils veulent la stabilité politique pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire que la Chine de Xi Jinping souhaite une Russie stable avec Vladimir Poutine qui reste au pouvoir, parce qu'il, c'est par solidarité, on va dire, entre pays à parti unique, autoritaire, mais aussi parce qu'ils craignent l'effet domino, c'est-à-dire qu'un changement de régime pourrait aussi affaiblir la Chine elle-même. Et donc, c'est vraiment important de prendre en compte cette convergence politique qui sous-tend aussi ce renforcement de la convergence géostratégique.
Et sur le soutien de la Russie à la Chine dans ces conflits territoriaux en mer de Chine méridionale ou sa volonté de récupérer Taïwan, Xi Jinping disait dans une tribune publiée en mai que Vladimir Poutine adhérait au principe d'une seule Chine. Il serait donc tout à fait d'accord et sur la même longueur d'onde sur ce sujet-là. Sylvie Berman, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, mais alors l'idée de coordination, c'est parce qu'en fait le G7 et les pays occidentaux se coordonnent aux Nations Unies, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle un P3, les trois membres permanents occidentaux, et donc il est clair que la Russie et la Chine se coordonnent effectivement face à ce qu'ils perçoivent comme l'hégémonie occidentale, et effectivement ce qu'ils redoutent le plus, c'est les ingérences dans leurs affaires intérieures. Alors c'est un partenariat stratégique de long terme, c'est pas une alliance, parce que l'alliance implique un soutien automatique. Et donc, c'est pour ça que la Chine, effectivement, n'en veut pas. Mais ce que la Chine attend, personne ne sait aujourd'hui ce que Xi Jinping fera à Taïwan, mais effectivement, un peu un retour d'ascenseur, si on peut s'exprimer de cette manière, de la part de Vladimir Poutine. En même temps, la Chine n'a jamais reconnu l'annexion de la Crimée, et elle soutient la Russie, mais sans soutenir politiquement et explicitement l'intervention. Elle le fait d'une part par le silence, par le maintien d'une relation continue et qui s'articule avec celle des grandes puissances de ce qu'on appelle le Sud global, parce que la rencontre à Kazan avec plus d'une vingtaine de chefs d'État des grands pays et secrétaires généraux des Nations Unies apparaît comme un soutien à cette vision multipolaire qui est idéologique aujourd'hui de la Chine et de la Russie.
Un soutien à la vision multipolaire et par ailleurs une volonté aussi de ne pas trop froisser des partenaires européens, par exemple, qui pourraient être très utiles, on en parlera mercredi, donc d'où le fait que la Chine ne reconnaisse pas officiellement les territoires annexés en Ukraine. Oui.
Oui, si je puis dire quelque chose là-dessus, c'est un domaine où il y a quand même une nuance entre la Russie et la Chine. la Russie, on parlait d'Occident collectif jusqu'aux tentatives de rapprochement de Donald Trump. Et il y a une hostilité systématique à l'Europe qui est perçue comme vassale des États-Unis et anti-russe. Les Chinois, au contraire, ont toujours soutenu la construction européenne et l'ont toujours vu comme une forme de contrepoids ou d'alliance possible, justement contre leurs ennemis et actuellement les États-Unis. Donc il y a une petite nuance là-dessus, même si effectivement, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est démontrer que le système occidental, libéral, pro-droit de l'homme ne fonctionne pas. Et donc, ça renforce le soutien de leur population à leur régime.
Alice Ekman.
Oui, il y a des divergences, bien sûr, entre les deux pays. Tout n'est pas que convergence, rapprochement net et facile. Il y a cette divergence de jeu vis-à-vis de l'Europe. Je dirais pas d'approche, mais de la façon dont il faut jouer l'Europe, plus ou moins subtilement. Il y a cette différence de vision de la gouvernance mondiale avec une Chine qui est plus ambitieuse en matière de restructuration, mais qui peut aussi entraîner la Russie dans ses efforts. Alors que la Russie dans une contestation peut-être plus, on va dire, frontale et explicite. Mais réellement, je pense que c'est une relation qui devient de plus en plus structurante dans le contexte actuel et c'est vraiment une relation qui pèse lourd parce que si on rappelle l'effet de base, c'est deux puissances quand même militaires, deux puissances nucléaires, deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, deux puissances économiques. Alors on dit souvent, oui, mais... très fort déséquilibre entre la deuxième et la onzième puissance économique mondiale. Et on entend parfois l'expression vassalisation. C'est la Chine qui vassaliserait la Russie aujourd'hui. Moi, ce que je vois, c'est que certes, oui, la Chine aurait les moyens de le faire. Elle aurait les moyens vraiment de tirer parti de cette asymétrie économique pour la défense de ses intérêts. Mais elle traite quand même avec beaucoup d'égards la Russie aujourd'hui. Elle ménage la Russie parce que voilà l'objectif est géostratégique de long terme. Alors on verra que sur des négociations comme Force de Sibérie 2, ça reste des négociations difficiles dans l'intérêt de chacun. Mais globalement, il voit pas moi de vassalisation de la Russie par la Chine, pas du tout. Je vois un renforcement de cette relation qui est structurante. Pourquoi elle est structurante? Parce que d'autant plus dans un contexte de tension transatlantique, c'est-à-dire qu'en fait ce rapprochement disons que les relations transatlantiques seraient moins, on va dire, problématiques il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Aujourd'hui, on assiste à des tensions très fortes entre l'Europe et États-Unis au moment où le rapprochement Chine-Russie se consolide encore. Et donc, toute l'argument de dire nous, ils n'arriveront pas à faire coalition, ils n'arriveront pas à rivaliser avec l'alliance occidentale, il faudra quand même peut-être nuancer un peu ce propos et prendre au sérieux cette rivalité qui est bien affichée côté sino-russe.
Donc, pas de volonté, pas d'intention de la part de la Chine de vassaliser la Russie comme on l'entend ici et là, Alice Ekman, mais il est vrai que le rapport de force, entre guillemets, a totalement changé. Sylvie Berman, entre l'époque où Staline considérait Mao comme, vous disiez, un communiste de margarine et qu'il avait fait patienter pendant 2 mois avant de signer un traité de coopération sino-russe, celui du grand frère au petit frère, c'était ça la relation. Aujourd'hui, le petit frère a bien grandi, voire s'est métamorphosé. En deuxième puissance mondiale, le grand frère russe, lui, est resté dépendant des hydrocarbures. Aujourd'hui, qu'est-ce que la Russie apporte à la Chine?
Alors, c'est effectivement un partenariat totalement asymétrique, mais la Chine n'a aucun intérêt à l'affaiblissement de la Russie. Au contraire, vous avez un ennemi commun, vous voulez que votre partenaire soit fort et non pas affaibli, contrairement à ce qu'on dit. Vladimir Poutine avait une expression intéressante à un moment, il disait c'est comme Alexandre Nevsky qui avait accepté finalement la domination mongole parce qu'elle ne menaçait pas l'identité de la Russie. Et pour Vladimir Poutine, cette notion identitaire, on le voit malheureusement avec l'Ukraine, est très importante. La Russie reste sur le plan nucléaire, militaire, une puissance très importante et qui fait jeu égal justement avec les États-Unis, alors que la Chine est dans un processus de rattrapage sur le plan nucléaire. Elle avait 100 ogives, elle en a maintenant 500 ou 600, et elle veut non pas rattraper, parce que entre les États-Unis et la Russie, c'est plutôt de l'ordre de 6000 ogives, mais elle veut être une puissance très forte dans ce domaine. Il y a des coopérations dans le domaine spatial avec la Russie, il y a un certain nombre d'intérêts, mais surtout ce qu'attend la Chine, c'est un retour et un soutien, parce que la Russie, même si l'ONU est aujourd'hui marginalisée, ça reste un membre permanent du Conseil de sécurité comme elle. Donc elle parie quand même sur la Russie.
Alice Ekman.
Oui, alors il y a un déséquilibre entre les deux puissances économiques, 2e et 11e puissance économique mondiale, on l'a dit, mais il y a aussi une certaine complémentarité. La Chine a besoin de l'énergie russe, même si elle diversifie largement ses sources d'approvisionnement ces dernières années. Et la Chine est une puissance technologique qui est intéressante pour la Russie, par exemple en matière de véhicules électriques. On voit maintenant un renforcement de la position des voitures chinoises sur le marché russe, par exemple. Et il y a une complémentarité aussi, mais au-delà de la complémentarité économique, il y a aussi une volonté de créer une mondialisation alternative. Ça, c'est une volonté qui est bien martelée par la Chine, mais qui se matérialise concrètement aussi dans le contournement des sanctions ou dans, par exemple, le règlement en devise locale. On a vu augmenter la valeur du commerce sino-russe libellé en yuan. Il a augmenté de près de 3% en 2024 par rapport à 2023, selon les données de l'administration générale douane chinoise. Mais c'est intéressant de voir qu'au-delà, il y a une volonté de rivaliser avec le dollar. On en est encore loin, mais voilà, d'être moins vulnérable aux sanctions, de développer des normes bancaires alternatives, des systèmes de paiement. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté alternative va peut-être, à mon avis, va se matérialiser de manière plus concrète grâce à cette complémentarité, mais aussi dans cette opposition commune aux sanctions. Qui rassemble d'ailleurs aussi l'Iran, la Corée du Nord, dans une moindre mesure. Mais réellement, on va voir, à mon avis, à terme, des normes chinoises qui sont davantage acceptées par ces pays-là dans un contexte de sanctions prolongées.
Et d'ailleurs, la Chine avait apporté son soutien à la Russie face aux sanctions dès le début de l'invasion de l'Ukraine à grande échelle.
Il a été prouvé à maintes reprises que les sanctions sont un boomerang et une arme à double tranchant. Depuis quelques temps maintenant, la mondialisation économique est confrontée à des vents contraires et à des contre-courants. Certains pays tentent de se découpler des autres, de rompre les chaînes d'approvisionnement et de construire une petite cour avec de hautes clôtures. La communauté internationale craint que si cette tendance se poursuit, l'économie mondiale devienne compartimentée et que les pays s'excluent les uns les autres.
Xi Jinping en 2022, donc juste après l'invasion, enfin vraiment quelques semaines après l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Sylvie Berman, cette invasion de l'Ukraine par la Russie, qu'est-ce qu'elle a changé? Vous faites des allers-retours dans votre livre entre l'histoire et aujourd'hui, mais qu'est-ce que cette date-là a changé dans la relation et l'amitié sino-russe?
Alors, je sais pas, c'est pas un tournant véritablement parce que ça avait déjà commencé en 2014 et le rapprochement de la Russie et la Chine a été très progressif, il s'est accéléré. Mais il n'a pas débuté à ce moment-là. En plus de ça, la Chine avait d'excellentes relations avec l'Ukraine. Il y avait beaucoup d'étudiants, il y avait beaucoup de projets de coopération. Donc ce n'était pas une hostilité à l'Ukraine. Mais aujourd'hui, c'est deux pays qui se sentent menacés par les États-Unis ou par l'Occident. Et ce qui explique ce rapprochement, d'autant plus que leur analyse, c'est que ça durera. C'est-à-dire que même si il y a cette petite romance idylle entre Trump et Poutine, que ce soit les démocrates ou les républicains américains, de toute façon, leur hostilité vis-à-vis des États-Unis demeurera, et vis-à-vis de la Chine encore plus, c'est l'ennemi public numéro un. C'est la logique du piège de Thucydide, où la puissance confirmée, les États-Unis craignent la puissance montante, la Chine. Et c'est cette rivalité existentielle, en réalité, qui va dominer le monde. Et là, la Chine aura besoin du soutien de la Russie.
Alice Ekman, un tout petit mot avant de parler des différents gazoducs et projets en ce moment entre la Chine et la Russie.
C'est une relation réellement structurante dans le contexte actuel. Je l'aurais dit, mais c'est vrai que cette dimension de long terme, alors c'est pas long terme parce que les Chinois penseraient long terme et les Américains penseraient long terme. C'est pas une approche culturaliste, on va du calendrier de géopolitique. C'est plus tout simplement parce que les dirigeants chinois et russes sont au pouvoir pendant probablement encore pas mal de temps.
Ils ont le même âge en plus.
Oui, et du côté chinois, on ne sait pas combien de temps Xi Jinping restera au pouvoir. Côté russe, on a des indications, mais c'est quand même encore une politique de long terme. Et donc, une politique de rapprochement de long terme face à un calendrier de court terme avec des revirements majeurs, puisqu'aujourd'hui, Donald Trump a qualifié Vladimir Poutine de fou. Donc, je parlerai pas de bromance, je parlerai de rapprochement continu avec des tentatives finalement avortées de diplomatie qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc, bon courage à l'Alliance transatlantique dans ce contexte. 瞬间清醒三秒间，马上又渐渐闭上眼，脑袋在重启边缘，但是却电源彻底减。瞬间清醒三秒间，马上又渐渐闭上眼，脑袋在重启边缘，但是却电源彻底减。
D'Aldago et cette chanson qui en français dit « Je ne peux pas arrêter la somnolence ». C'est une chanson qui date de 2022 qu'a trouvé Cassandre Puel pour ce premier épisode d'une nouvelle série dans Culture Monde sur les relations que nous ou que renforce Pékin pour parer aux attaques commerciales américaines. Aujourd'hui, son amitié avec la Russie, avec nos invités Alice Ekman et Sylvie Berman. Sur le gaz, la relation est plus ambiguë car Moscou fait à Pékin un prix d'ami, mais aimerait beaucoup lui en vendre plus.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
当前，中俄两国都处于国家发展的。
Aujourd'hui, la Chine et la Russie se trouvent toutes deux à un moment crucial pour leur développement national. Les relations sino-russes entrent dans une nouvelle ère avec le projet de gazoduc Force de Sibérie. J'espère que nous continuerons à redoubler d'efforts mutuels pour faire advenir d'autres ambitions communes et pour nous entraider dans le bien de nos peuples et de nos nations.
En 2019, Xi Jinping célébrait le gazoduc Force de Sibérie 1. Si la Chine est un client idéal du gaz russe, Moscou est un fournisseur idéal pour Pékin, à qui il fait des prix d'amis pour financer son effort de guerre sur le front ukrainien. Chacun semblait y trouver son compte, mais le nouveau projet de gazoduc entre les deux pays peine aujourd'hui à se concrétiser. Bonjour Sophie Hou. Bonjour.
Bonjour,
merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes maîtresse de conférence en géographie à l'Université Paris 1 Sorbonne. Alors, avant de parler de ce projet qui est entre parenthèses pour l'instant, le gazoduc Force de Sibérie 2, quelles sont les nouvelles du précédent, le gazoduc Force de Sibérie 1, qui est entré en service il y a déjà plus de 5 ans, fin 2019?
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le gazoduc Force de Sibérie dit 1 maintenant, c'est le premier gazoduc qui permet d'approvisionner la Chine par gazoduc en gaz naturel. Et ça, en un sens, c'est un vrai tournant parce qu'auparavant, toutes les infrastructures, les pipelines qui permettaient de livrer du gaz étaient orientées vers l'Ouest, donc vers l'Europe, qui était le marché de consommation, le débouché pour la Russie. Et là, Force de Sibérie 1 permet à la Russie d'exporter son gaz aussi vers le marché chinois. C'est un gazoduc, pour le rappeler rapidement, qui a été mis en construction après le fameux grand accord conclu entre la Chine et la Russie en 2014, donc très médiatisé.
L'accord du siècle, comme on l'appelait.
Exactement. Donc avec un accord sur 30 ans qui prévoit des livraisons de 38 000 milliards de mètres cubes de gaz par an. Et donc ce gazoduc, il relie, c'est ça qui est important, des gisements qui se trouvent en Sibérie orientale et en Extrême-Orient à la Chine. Mmh. Et pas les gisements qui, jusqu'ici, étaient les gisements qui alimentaient les marchés européens.
Est-ce que ça veut dire que la Russie en a profité de ce gazoduc Force de Sibérie 1 qui devait répondre aux besoins annuels en gaz de 130 millions de ménages urbains dans les régions du nord-est de la Chine? Donc c'est un gazoduc qui parle de Yakoutie dans le nord-est de la Sibérie pour arriver en Chine. Est-ce que la Russie en a profité pour exploiter de nouveaux gisements, puisque, comme vous le disiez, la Sibérie occidentale était pour l'instant davantage concernée et là, les gisements sont en Sibérie orientale. Qu'est-ce que ça a changé pour le territoire sibérien?
Oui, effectivement. Donc ça a changé parce que c'était des gisements, donc Kovitka, Chayanda, qui étaient en attente, si on peut dire, pour être mis en exploitation. On savait que ces ressources étaient là. Simplement, elles n'étaient pas connectées au réseau et donc sans aucune possibilité de les transporter, de les exporter. C'était des gisements qui n'étaient pas exploités. Et donc, le fait de construire Force de Sibérie 1, ça a lancé la mise en exploitation de ces ressources.
Donc, avec des conséquences aussi pour les territoires sibériens et leurs habitants, ça a créé un peu des dissensions au départ.
Alors oui et non, parce qu'en fait la façon dont le gouvernement russe et Gazprom, donc qui est l'entreprise publique qui s'occupe, on va dire, qui gère, qui contrôle le réseau d'exportation et de transport de gazoduc en Russie, avait l'argumentaire, le discours, comme quoi c'était un gazoduc qui devait permettre non seulement d'exporter, mais aussi d'approvisionner en fait les régions et les consommateurs donc locaux en Russie en gaz dans des régions qui dépendent aujourd'hui beaucoup du charbon. Avec aussi des populations qui se chauffent au bois, par exemple. Donc il y avait ce discours, c'est bien pour la Russie d'un point de vue stratégique et pour exporter vers la Chine, et c'est bien pour les régions, pour les consommateurs industriels qui vont avoir une énergie à meilleur marché, plus intéressante, qui va être le gaz. Donc il y a cette ambiguïté. Alors après, justement, le développement des réseaux régionaux reste encore très faible, et donc on peut en discuter.
Ce contrat du siècle, il fixait à 38 milliards de mètres cubes par an le volume de gaz russe importé par la Chine. Alors ça suffit pas à compenser l'arrêt des achats européens qui commandaient plutôt dans les 55 milliards. Donc la Russie cherche à convaincre Pékin d'acheter davantage. Or ce projet de gazoduc Force de Sibérie 2 est à l'arrêt pour l'instant. Pourquoi ?
Alors, il est pas officiellement à l'arrêt, ouais. C'est-à-dire que même à l'occasion des rencontres au 8-9 mai, il y a eu des communiqués, des choses comme quoi, oui, les négociations étaient actives au sujet de Force de Sibérie 2, c'est pas abandonné. Donc, bon, c'est pas officiellement abandonné. C'est vrai que la Russie avait lancé ce projet, donc avec la Chine, dès 2022, en disant, voilà, on va construire quelque chose, ça va commencer dès 2024, on va le mettre en service en 2027. Aujourd'hui, en fait, rien n'a été concrètement réalisé. Il y a toujours des négociations. Alors récemment, la Russie mettait en avant le fait que des études techniques et économiques avaient été faites en Mongolie, puisque c'est un gazoduc qui devrait, ou en tout cas, l'une des options, c'est de passer par la Mongolie. Et donc, il y a des avancées au sens où il y a des, mais comme souvent dans le cadre de ce type de projet, dans les discours, on met en avant des accords ou des choses qui sont en fait très peu substantielles. Les avancées réelles, effectivement, il n'y a pas grand-chose, pour diverses raisons. Alors, l'une d'entre elles, c'est qu'en fait, la Chine n'a pas le besoin urgent de construire ce gazoduc, dans la mesure où, certes, elle a des besoins en approvisionnement énergétique, mais elle a jusqu'ici des fournisseurs, et donc, dans les analyses, on estime que c'est plutôt à l'horizon 2030 qu'elle aurait vraiment besoin, voire un peu après, de sources vraiment supplémentaires d'énergie. Alors que pour la Russie, du fait justement de sa coupure avec le marché européen, il y a cette question de devoir de trouver un débouché de façon beaucoup plus urgente. Donc on est sur un décalage de priorité dont joue très bien la Chine, comme elle avait su le faire d'ailleurs à l'occasion de Force de Sibérie 1, parce que ça lui permet de négocier des conditions plus avantageuses, de jouer sur les prix et ce genre de choses.
D'autant que la Chine, Alice Ekman le rappelait tout à l'heure, ne veut pas dépendre que d'un seul fournisseur. Elle importe 42% de son approvisionnement en gaz. gaz. Elle se fournit aussi auprès du Turkménistan, du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan. Elle a construit un pipeline sino-birman et a développé aussi sur sa côte sud-est des terminaux de gaz naturel liquéfié. Donc elle peut désormais importer du Qatar, d'Australie, ce dont elle ne se prive pas. Donc il y a un décalage d'agenda. Comme vous dites, l'enjeu est prioritaire pour la Russie. En revanche, aussi parce que Gazprom rencontre des difficultés financières, il faut absolument trouver des débouchés pour ce gaz. En quelques mots, Madame Loup.
Oui, alors en quelques mots. Alors c'est vrai qu'au début, Gazprom a quand même réalisé des profits du fait de l'augmentation des prix, etc. Bon, aujourd'hui, en 2024, hein, le constat c'était une baisse de 7% des investissements qui étaient prévus, des grosses baisses aussi hein, dans les bénéfices. Et donc en fait, Gazprom, qui est la compagnie vraiment qui gère les réseaux d'exportation de gazoducs et de transport sur le territoire de la Russie, se retrouve dans une situation où tout ce gaz qui était auparavant transporté vers l'ouest ne peut plus l'être, et donc le projet Force de Sibérie 2 permettrait de relier donc les gisements qui sont un peu délaissés du fait de l'abandon, si on peut dire, des marchés occidentaux aux marchés orientaux et à la Chine.
Et d'autant que la Chine, elle, joue la montre encore une fois, parce que elle, non seulement elle ne veut pas dépendre que d'un seul fournisseur, mais elle cherche à poursuivre sa transition énergétique et mise plutôt sur le renouvelable. Donc on entend bien, Sophie Hou, et je vous remercie, restez avec nous. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en géographie à l'Université Paris 1 Sorbonne. On entend bien que là, sur ce sujet-là, la Russie dépend bien davantage de la Chine que l'inverse. Et sans doute aussi, Alice Ekman et Sophie Berman, vous êtes allés dans l'Altaï il n'y a pas longtemps, on va en parler, mais juste un tout petit mot sur cette relation, Alice Ekman. La Chine n'est pas prête à brader, à faire tout ce que la Russie lui demande. On l'entend bien aussi sur cet exemple-là.
C'est vraiment très intéressant parce que comme pour Force de Sibérie 1, Force de Sibérie 2, les négociations qui l'entourent prouvent qu'on peut combiner convergence stratégique et négociation pragmatique, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils ont des grands intérêts communs dans la rivalité entre grandes puissances à l'échelle mondiale que concrètement, lorsqu'il s'agit de gros sous et d'un calendrier divergent, et ben la Chine ne pousse pas ses intérêts comme dans toute négociation, de manière très pragmatique.
Et d'ailleurs, lorsqu'elle a signé, passé le contrat du siècle en 2014, elle a négocié ferme, elle a obtenu des tarifs extrêmement avantageux de la part de la Russie, qui était alors en position de faiblesse avec la chute de la demande européenne en hydrocarbures. Alors sur ce projet Force de Sibérie 2, il se trouve, Sylvie Berman, que vous êtes allée dans l'Altaï, d'où doit partir ce gazoduc, et que vous avez senti une résistance vraiment local.
Alors il y a une résistance très forte effectivement des populations, mais pour des raisons plutôt écologiques, parce que l'Altaï est une très belle région de parcs naturels, d'ailleurs avait protégé par le patrimoine mondial de l'UNESCO, et ils n'ont pas du tout envie de voir passer ce gazoduc. Mais de toute façon, ce n'est pas eux qui vont décider. Hein. C'est le gouvernement central en fonction de son intérêt qui a été bien expliqué. Moi j'étais à Pékin au moment de la signature de ce fameux contrat du siècle qui a été négocié pour Sibérie 1, qui a été négocié pendant 10 ans, et ça s'est fait au terme chinois, en fait, dans l'intérêt de la Chine sur le plan économique.
Et Sophie Hou, pour le Force de Sibérie 1, vous parlez aussi dans vos travaux au départ d'une forme de sinophobie de la population qui avait peur de voir arriver des ouvriers chinois massivement.
Pas forcément. En fait, c'est plus que, évidemment, ça s'inscrit aussi dans un contexte où les régions donc de Sibérie orientale et d'Extrême-Orient sont très faiblement densément peuplé. Donc il y a un contraste très fort. Après, le discours il est toujours double, et il y a l'ambiguïté, on la retrouve dans les publications. Il y a des publications et des discours qui parlent de ce fameux, entre guillemets, un péril jaune, de la crainte par rapport aux voisins chinois. Mais en même temps, il y a ce discours beaucoup plus positif du fait que la Chine est pas une bouée de sauvetage, mais en tout cas, ce partenaire est essentiel pour la Russie.
Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous pour parler de cette amitié russo-chinoise qui a aussi oublié le siècle dit d'humiliation au 19e siècle, quand la Chine a subi la politique de la canonnière du régime tsariste et a fini par céder à l'Empire russe 1 million de kilomètres carrés de l'actuel Extrême-Orient russe au nord du fleuve Amour, appelé Amour en Russie et Dragon Noir en Chine. Ce siècle d'humiliation qui, pour les besoins de l'histoire aujourd'hui, a été quelque peu oublié, alors que la Chine rappelle beaucoup en revanche et à juste titre les pillages sabotages français et britanniques, la mise à sac du palais d'été en 1860 par exemple. Ce sont des épisodes dont on retrouve des explications dans votre livre Sylvie Berman, L'ours et le dragon, paru ce mois-ci aux éditions Talendier. Alice Ekman, Dernier vol pour Pékin et le tract Gallimard, Chine-Russie, Le grand rapprochement, ce sont parmi vos derniers ouvrages. Et merci Sophie Hou, maîtresse de conférence en géographie à l'université Paris Sorbonne. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et vous parlez ce matin, Catherine, tout comme la presse, d'une recrudescence des violences au Cameroun.
Dans les régions anglophones séparatistes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, assassinats et enlèvements se multiplient de nouveau, constatent Jeune Afrique et la BBC. Des policiers et gendarmes ont été tués ces dernières semaines, sans compter un sous-préfet enlevé par des hommes armés, relève le journal du Cameroun. Il n'a été libéré qu'après 6 mois de captivité, 6 mois de calvaire. Les fonctionnaires sont particulièrement ciblés dans ce conflit qui ravage le Cameroun depuis 2016, même s'il trouve ses racines dans la période coloniale, rappelle la BBC. The Conversation et Jeune Afrique. Les francophones constituent la majorité de la population camerounaise de 29 millions d'habitants dans un pays qui était en grande partie une colonie française. Mais 20% des Camerounais du sud-ouest et du nord-ouest vivent sur ce qui était un territoire britannique. Ils sont donc anglophones. S'estimant marginalisés par le pouvoir central francophone, des syndicats d'avocats et d'enseignants avaient protesté en 2016 contre l'emploi obligatoire du français dans les tribunaux et les écoles des régions anglophones du Cameroun. Les manifestations, au début pacifiques, ont été réprimées dans le sang pour les dirigeants anglophones. Déclaration de guerre officielle, analyse The Conversation. Et le message s'est rapidement répandu sur les réseaux sociaux dans le pays et au sein de la diaspora camerounaise. La situation a depuis dégénéré en une lutte armée pour l'indépendance de ce que les sécessionnistes appellent l'Ambazonie, nom dérivé de la baie d'Ambas dans le sud du Cameroun.
Et les civils sont pris en tenaille.
Victime d'exactions commises par les deux camps, souligne la BBC, dans ce conflit qui a fait plus de 6000 morts et forcé près d'1 million de Camerounais à fuir leur domicile, selon International Crisis Group. Nous nous réveillons le matin avec des cadavres dans les rues ou bien en apprenant qu'une maison a été incendiée, que quelqu'un a été enlevé, raconte Blaise Eyong, un journaliste camerounais qui a dû lui-même quitter en 2019 son village natal dans le sud-ouest du Cameroun. Il produit aujourd'hui un documentaire pour BBC Eye intitulé La terre ensanglantée. Jato témoigne, lui, de la torture qu'il a subie après avoir été enlevé alors qu'il travaillait pour la CDC, le deuxième employeur du Cameroun, avec des plantations d'EVA, de palmiers à huile et des bananeraies. L'un des hommes armés m'a tenu en joue et m'a ordonné de laisser tomber mon portable par terre. Ils m'ont dit que je devais mourir, se souvient devant la caméra de la BBC, Jato, qui travaillait donc pour la CDC, un groupe contrôlé par l'État, ce qui en fait une cible pour les séparatistes. Il disait que l'argent allait au gouvernement, qui achetait ensuite des armes pour les tuer, mais que nous continuions à travailler. C'est pour cette raison qu'ils allaient nous tuer, afin que notre travail s'arrête complètement. Un homme a alors lancé une machette sur moi. Alors que je me levais, la machette m'a sectionné une veine dans le bras droit. J'ai fait un geste de la main pour demander pourquoi il avait fait ça. Il m'a coupé les doigts de la main droite, raconte Jato, qui a miraculeusement réussi à s'échapper, précise la BBC. Difficile aujourd'hui d'entrevoir la fin des violences. Alors qu'un leader séparatiste camerounais a été arrêté fin septembre en Norvège pour avoir incité à commettre des crimes contre l'humanité au Cameroun, explique VOA Afrique et Actu Cameroun. Désormais, les séparatistes se divisent en groupes rivaux. Et puis, côté francophones, des milices d'autodéfense se créent et assassinent à leur tour, alerte BBCI. En octobre prochain, le Cameroun se rendra aux urnes. Paul Biya, 92 ans, le plus vieux dirigeant au monde, pourrait bien briguer un 8e mandat, explique le Guardian. S'il est réélu, peu d'espoir de paix, estime le quotidien britannique. Mais si cette crise entre anglophones et francophones trouve une issue un jour, Félix Agborn Kongo, un avocat qui était l'un des leaders des manifestations de 2016 côté anglophone, se demande qui restera en vie pour être gouverné. Et il insiste auprès de la BBC. Les séparatistes et le gouvernement ont commis des crimes odieux. Le Cameroun, qui promet dans sa devise nationale « paix, travail, patrie », est en faillite, accuse Joshua Ossi, à la tête du parti d'opposition Social Democratic Front, candidat déclaré, lui, à la présidentielle d'octobre prochain. Un régime autocratique a rongé jusqu'à l'os le tissu de notre nation, tense Joshua Ossi, cité par le journal du Cameroun. Pour Pour lui, l'avenir est hypothéqué par le régime de Paul Biya, à bout de souffle, accroché au pouvoir depuis 43 ans.
Au Venezuela, Catherine, le parti du président Nicolas Maduro a remporté hier une écrasante victoire aux élections législatives et régionales.
Plus de 82% des voix pour le chavisme, annonce le quotidien vénézuélien El Universal, mais avec seulement 42% de participation hier, selon les chiffres officiels. Ce que les journaux espagnols El País et ABC retiennent surtout, ce sont les bureaux de vote bien vide au Venezuela, à Caracas notamment. Des photos ont d'ailleurs circulé sur les réseaux sociaux. L'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qui appelait au boycott des urnes, rappelle El País America, a d'ailleurs félicité les Vénézuéliens pour ne pas avoir écouté l'appel du régime hier. Après la présidentielle contestée de l'été dernier, entachée de fraude, beaucoup de découragement aussi chez les électeurs interrogés par El País, dans un pays en crise aussi sur le plan économique. Il n'y a plus rien à faire au Venezuela, plus rien ne vaut la peine, confie un chauffeur de taxi à El País en montrant la liasse de billets de Bolivar qu'il a accumulé toute la journée d'hier pour prouver qu'ils ne valent plus rien.
Merci beaucoup Catherine Dutu.